Bienvenue à vous qui nous retrouvez sur AWR, la Radio Mondiale Adventiste, pour votre nouveau programme de la Voix de l'Espérance en français, qui vous est proposé et présenté par Oscar Miani. Et voilà, c'est donc parti pour les 30 prochaines minutes ensemble. Merci de votre fidélité à la Voix de l'Espérance. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter sur les ondes, par internet ou aussi grâce à votre téléphone. D'ailleurs, je vous en rappelle tout de suite les numéros qui ne sont absolument pas surtaxés, il faut bien le préciser. Alors si vous voulez nous écouter avec votre téléphone depuis la France, vous composez le 01 80 14 44 77. Si vous êtes en dehors de France, eh bien vous composez le 00 33 1 80 14 44 77. Et si vous souhaitez nous écouter depuis les États-Unis, eh bien il vous faudra composer le 1 712 432 9 978. Alors, aujourd'hui, nous vous proposons votre rendez-vous santé avec le docteur Jean Lindsay. Ensuite, ce sera l'heure de passer à table, si je puis dire, avec Top Cuisine. Et pour finir, un temps de réflexion avec le pasteur Daniel Monachini pour l'émission Œil pour œil. Tout de suite, pour commencer, sentez-vous bien. Merci de nous retrouver pour notre émission Sentez-vous bien. Nous sommes en compagnie du docteur Jean Lindsay. Docteur, bienvenue.
Bonjour Oscar.
Merci de nous retrouver. Donc vous allez nous parler de santé comme à chaque fois dans ces émissions. Et aujourd'hui, il s'agit du sucre. Alors qu'est-ce qu'il y a à dire sur le sucre, docteur Jean Lindsay ?
Il y a un article qui vient d'être publié qui dit en fait le sucre, ce serait le prochain tabac.
C'est-à-dire ?
Ben, vous savez que le tabac, ça commence à se savoir que c'est pas très
bon. Ça rend dépendant.
Ça rend dépendant et puis ça fait beaucoup de mal à la santé.
Ah, aussi sur ce sujet.
Ça commence à se savoir que le tabac, c'est pas très bon. Et la bonne nouvelle, c'est que aux États-Unis, le tabac vient de décrocher. C'est-à-dire qu'il y a plus que 15% de fumeurs aux États-Unis.
C'est significatif.
Il y avait un tiers de la population qui fumait et là, on a plus qu'un sixième.
Et c'est dû à quoi? Prise de conscience?
Ben, depuis le temps qu'on dit aux gens que c'est pas bon, ils ont fini par comprendre, si vous voulez. Ça marche comme ça en santé publique. Hein. C'est faut le temps que ça.
Faut répéter, rabâcher.
Oui.
Et ça finit par porter ses fruits.
Ah oui, tout à fait. Oui.
Et le sucre, c'est le même cas de figure.
On sort à peine du tabac qu'un nouveau fléau vient de s'abattre sur nos sociétés. C'est le sucre.
Oui.
Pour nos auditeurs qui comprennent l'anglais, l'article c'était Is sugar the next tobacco? Ça veut dire, est-ce que le sucre serait pas le prochain tabac, quoi? Et probablement oui. Si vous voulez, sous Henri IV, les Français consommaient simplement 2 kilos de sucre par an. Sous forme de miel.
Oui.
Rien d'autre.
Bon. Oui.
Après est arrivée la canne à sucre, puis alors la betterave sucrière. Et alors là, actuellement, on serait à 40 kilos par an.
Chez les Français?
Chez les Français, oui. Et les Américains, on serait à 80 kilos par an. C'est ce qui leur donne cette épidémie d'obésité. Hein. Bon, si ça donnait que du surpoids, c'est déjà un vrai sujet. Mais seulement, on s'est aperçu que ça atteignait la mémoire, ça empêche d'apprendre, ça crée des états dépressifs, des états de stress, ça fait vieillir prématurément et ça crée une dépendance, comme toutes les drogues. Après, il y a toute la kyrielle, la cascade derrière l'obésité, il y a le diabète, il y a les maladies cardiovasculaires et le cancer.
Pas négligeable, liste commence à être longue.
Ah oui, ça commence à être long. Donc, il faudrait recommander à nos auditeurs il faudrait retirer le sucre.
Ah, vous êtes pour supprimer le sucre.
Bah, le sucre sucrant, oui.
Oui.
Déjà.
Pas d'ajout de sucre, quoi.
Pas d'ajout de sucre, déjà.
Parce qu'il y en a déjà dans la nourriture. Bah,
alors,
naturellement.
Surtout, c'est ça, c'est que les industriels ont mis du sucre partout.
Oui, en plus.
Vous achetez des plats salés, il y a du sucre dedans. Alors,
oui.
Donc, faut regarder la composition. Et puis,
c'est à double tranchant. Quand on consomme des plats sucrés, il y a du sel. Et quand on consomme des plats salés, il y a du sucre.
Oui, c'est ça. Donc, idéalement, il faut faire sa cuisine. Hein.
Ouais.
Ou alors, acheter quand on est vraiment coincé, il y a sûrement des produits. Mais il faut être très, très vigilant sur ce qu'on achète. Hein, Alors, sinon, actuellement, le Français, il mange 100 grammes par jour, à peu près. Hein.
Ça fait, de sucre.
De sucre, ouais.
Oui.
Sous diverses formes. Alors,
vous allez nous dire que c'est beaucoup trop.
C'est beaucoup. Ah bah oui, non, oui. Là-dessus, tout le monde est d'accord. Idéalement, il faudrait 50 grammes par jour.
50 grammes?
Oui, il faudrait déjà diviser par deux.
D'accord.
Et peut-être même plutôt par quatre. Il faudrait peut-être viser les 25 grammes par jour.
50 grammes, c'est déjà la fourchette haute.
Voilà. Ah. Alors, si on divisait par deux l'apport de sucre, on aurait un effet très bénéfique en termes de santé publique. Pour le moment, on en est loin. Hein.
Et alors
le gros piège, c'est les sodas, toutes les boissons sucrées. Alors on peut recommander à nos auditeurs qui boivent des boissons sucrées de faire le test du réchauffement, c'est-à-dire que
réchauffement de la boisson.
De la boisson.
Oui. Donc,
si vous êtes habitué à boire des boissons sucrées, éventuellement gazeuses, éventuellement contenant de la caféine.
Oui. On voit pas de quelle boisson vous voulez
non,
parler.
Non, pas du tout. Vous la laissez simplement à température ambiante, vous voyez.
Uh-huh.
Et puis vous attendez qu'elle soit réchauffée.
Ouais.
Et vous goûtez. Ouais. Là, et vous allez voir, c'est
pas bon. C'est pour ça qu'on la recommande de la mettre au frais.
Voilà, on les boit glacés. Et les jus de fruits industriels, pareil, hein, c'est la même chose. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est de recommander à nos auditeurs de faire un sevrage de sucre pendant un mois.
Oui.
Vous faites un sevrage de sucre, alors
oui.
Tous les sucres ajoutés, vous la retirez, les pâtisseries, enfin tout ce qui est manifestement sucré, vous pouvez manger un gâteau le dimanche si vous voulez, hein. Et puis mais pas plus. Pendant un mois, vous faites un sevrage au sucre. Dans un mois, au bout d'un mois, vous réintroduisez le sucre. Vous remangez les gâteaux que vous mangiez, vous goûtez les boissons à température ambiante, boissons sucrées. Vous vous demanderez comment vous avez pu boire et manger ça.
Oui.
Il y a une dépendance, hein, c'est une drogue, c'est une petite drogue.
Donc notre corps finit par le réclamer avec...
Ah bah oui, bah les gens sont tous piégés, ils mangent, ils enfilent les biscuits, ils enfilent les sodas, les boissons sucrées. Mmh. C'est parce qu'ils sont dépendants. Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est une dépendance modeste. C'est-à-dire que c'est une dépendance...
Dont on peut se défaire facilement.
Oui, ça n'a rien à voir avec un sevrage tabagique ou un sevrage alcoolique, hein. C'est vraiment faisable, hein. C'est vraiment faisable.
Alors autant ne pas s'en priver.
Voilà, oui, c'est une petite victoire sur soi.
Surtout quand on repense à la liste de conséquences.
Ah bah oui, des inconvénients, oui.
Ça, bon, ça vaut quand même le coup.
Ah oui, c'est pas grand, c'est un petit effort et un grand réconfort. Hein.
C'était donc Sentez-vous bien avec le docteur Jean Lindsay. On se retrouve bientôt pour une prochaine chronique. Au revoir.
The Voice of Hope.
Here is Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung.
Questa è la radio mondiale avventista.
La voce della speranza.
Rise up, O men of God, have done with lesser things. Give heart and soul and mind and strength to serve the King of Kings. Rise up, O men of God, the church for you doth wait, her strength unequal to the task, rise up and make her great. Lift high the cross of Christ, tread where his feet have trod, as brothers of the Son of Man, rise up, O men of God. Rise up, O men of God, his kingdom tarries long. Bring in the day of brotherhood and end the night of wrong. Rise up, O men,
rise up, O men of God.
Vous êtes toujours à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste et c'est votre émission La Voix de l'Espérance qui vous est présentée par Oscar Miani et toute l'équipe pour vous accompagner jour après jour. Juste avant, c'était Sentez-vous bien que vous retrouverez dès la semaine prochaine à la même heure et sur cette même antenne. Si vous souhaitez avoir une grille des programmes, ou bien si vous voulez vous adresser à nos invités ou nous envoyer un petit message, eh bien c'est très simple, il vous suffit de nous adresser un mail à france@awr.org. C'est maintenant l'heure de poursuivre avec votre rendez-vous Top Cuisine et nous terminerons juste après avec le pasteur Daniel Monachini qui nous proposera l'émission Œil pour œil. Corinne Valls, c'est avec plaisir que je vous retrouve au micro de Top Cuisine. Vous êtes spécialiste de la cuisine saine et vous venez donc à ce micro aider nos auditeurs à s'y retrouver dans le dédale de l'alimentation. Il y a plein de sujets à aborder. Aujourd'hui, celui que vous avez choisi, c'est peut-être un sujet qui est mal connu dans nos pays francophones. Il s'agit de la question des algues. Alors comment est-ce qu'on peut utiliser les algues dans notre cuisine ?
Oui, je vais vous parler des algues parce que je crois que c'est un peu aussi l'aliment de l'avenir. Hein. Et c'est vrai que l'algue n'est pas très connue, pas très prisée non plus. Alors, je voudrais quand même préciser que c'est comme les champignons, l'algue comme le champignon, c'est-à-dire il y en a des comestibles, il y en a des très dangereuses.
Ah oui, on ne peut pas s'aventurer à manger tout ce qu'on trouve au bord de la mer.
Non, il y a eu des accidents, même en s'y baignant, donc il faut faire attention, il faut connaître, il y a des gens qui connaissent, mais après, je pense que pour les personnes, les novices, il vaut mieux ne pas aller chercher les algues au bord de l'eau, il vaut mieux aller les acheter dans les magasins, que ce soit le magasin diététique ou maintenant peut-être dans les grandes surfaces on trouve aussi.
C'est plus sûr. Et d'où est-ce qu'elle nous vient cette pratique de manger les algues ?
Les Japonais utilisaient les algues depuis très longtemps, c'est un apport protéinique, sel minéraux, des vitamines non négligeables pour eux. Et puis après aussi, les algues arrivent, viennent de Bretagne, il y a une très bonne qualité d'algues en Bretagne.
Ah oui, en Bretagne, il y a de très bonnes algues.
Et oui, on ne paraît pas comme ça, mais en Bretagne, il y a de très bonnes algues. Voilà.
Donc la Bretagne fait concurrence au Japon.
Donc je veux dire qu'ils vont se compléter, parce que maintenant, il y a de plus en plus de demandes pour les algues. Et parce qu'en Bretagne, il y a une eau qui est pure, elles sont dans une eau très pure et presque froide. Ils ont une très bonne technique pour les laver, pour les utiliser, les algues aussi.
Et alors, comment est-ce que ça se consomme, l'algue, comme une salade ? Ce serait en quelque sorte la salade de la mer ?
Presque la salade de la mer, c'est vrai. Pas seulement, parce qu'il y a beaucoup de sortes d'algues et on peut les utiliser de plusieurs manières. Hein. Quand on parle d'algues comestibles, elles sont réputées en principe pour être agréables à déguster. Elles se préparent de manière différente. On peut les faire en friture, cuites en papillote, en soupe, en apéritif ou simplement comme une herbe aromatique que l'on va mettre au-dessus de ses aliments. Dans ce cas, il faut choisir des algues présentées sous forme de paillettes. Elles sont appréciées par les personnes qui fuient les aliments trop caloriques car elles sont pauvres en calories.
Et donc, vous le disiez, ces algues, on les trouve dans les magasins, magasins spécialisés ou bien même grandes surfaces aujourd'hui.
Voilà, dans les grandes surfaces, certaines algues, pas toutes, mais même dans les grandes surfaces, on peut trouver des algues. Je voulais parler de ces algues parce qu'il y en a qui sont très connues, il y en a qui ne le sont pas. Et je voulais vous dire que ces algues sont riches en calcium, en minéraux, en oligo-éléments, protéines et vitamines. À ce propos, elles ont la particularité de contenir de la vitamine B12. Leurs rapports sont propres à la couleur des algues. C'est pourquoi il est judicieux de consommer plusieurs variétés d'entre elles.
Quand vous dites qu'elles apportent beaucoup de calcium, je crois même que c'est une concentration de calcium très élevée.
Oui, c'est une concentration, ça on l'ignore, qu'il y a tant de calcium dans les algues. Il paraît qu'il y a 6 fois plus de calcium dans l'algue kombu breton. Hein, c'est le kombu breton, c'est une algue assez épaisse. Il y a 6 fois plus de calcium que dans le lait de vache. Et le kombu, c'est une algue brune que l'on utilise, on peut mettre dans le potage. Après l'avoir rincé, on peut mettre dans le potage, on peut enrichir son potage. Et c'est bien de prendre l'habitude de mettre cette algue quand on fait cuire les légumineuses. Ça aide la légumineuse à cuire beaucoup plus vite, ça tendrit la légumineuse.
Vous en venez à nous expliquer comment on peut utiliser l'algue, ça s'utilise de plusieurs manières différentes.
Oui, alors comme j'ai tout à l'heure un petit peu survolé, je vous ai dit que ça pouvait s'utiliser de manière différente. Si vous faites une salade, vous pouvez rajouter les algues en paillettes. Vous avez le haricot de mer, la laitue de mer, la douche, le kombu, la wakame, et ça fait partie des algues les plus connues. Et tout le monde connaît les sushis qui sont entourés d'une algue. Il y a l'algue nori aussi, qu'on peut faire griller au-dessus de la flamme et qu'on peut briser légèrement au-dessus de ces aliments. On peut l'utiliser comme un condiment. C'est sûr que les plats d'algues entiers. Comme ça, il y a peu de personnes qui apprécient vraiment le plat d'algues tout seul, comme la salade de la mer. Hein. Mais on peut l'utiliser de plusieurs sortes. Et vous pouvez trouver plusieurs recettes à base d'algues maintenant. Ça commence à être connu.
Donc, encore une nouvelle chose à intégrer dans nos cuisines, l'algue. Voilà, merci Corinne Valls. À bientôt pour une prochaine chronique de Top Cuisine. Au revoir.
Au revoir.
This is Adventist World Radio, the voice of hope.
Here is Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung.
Questa è la radio mondiale avventista.
La voce della speranza.
Shall we gather by the river, where bright angels' feet have trod? Forever flowing by the throne of God. Yes, we'll gather by the river, the beautiful river. Gather with the saints.
C'est toujours la Radio Mondiale Adventiste. Vous êtes à l'écoute de La Voix de l'Espérance avec Oscar Miani au micro et évidemment accompagné de toute notre équipe. Juste avant, c'était Top Cuisine que vous retrouverez mercredi prochain sur cette même antenne. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur les ondes, sur internet aussi, www.awr.org ou encore par votre téléphone, comme je vous le disais en début d'émission. Je vous propose maintenant de poursuivre avec le pasteur Daniel Monachini qui vient nous rejoindre pour un moment de réflexion avec Œil pour œil.
C'était Œil pour œil, expression de la langue française tirée de la Bible, présentée par Oscar Miani et le pasteur Daniel Monachini.
Daniel Monachini, bonjour.
Bonjour Oscar.
Merci de votre présence à ce micro. Vous êtes pasteur et vous nous proposez de revenir sur des expressions de notre langage qui sont empruntées à la Bible. Et aujourd'hui,
tout à fait.
Quelle est celle que vous avez choisie, sélectionnée pour nous ?
Alors aujourd'hui, j'ai choisi un concept beaucoup utilisé qui se trouve dans plusieurs expressions et qui est l'expression « la terre promise ».
Alors effectivement, c'est une expression qu'on retrouve dans notre langage de tous les jours. Qu'est-ce qui a à faire ressortir de cette expression, Daniel Monachini ?
Alors, terre promise, elle est quand même souvent utilisée un peu comme une espèce de grand de cadeau, d'objectif à atteindre, de prime, hein, de lieu, un peu de terre de délices. Terre promise, alors on trouve le langage dans le Nouveau Testament, dans le livre aux Hébreux, mais bien évidemment, toute la connotation, tout le thème se développe principalement dans le livre de l'Exode, où c'est l'attente qui est cultivée, promise d'ailleurs, au peuple d'Israël qui sort d'Égypte. Donc c'est donc la sortie d'Égypte, le passage de ces 400 ans d'esclavage à tout ce cheminement jusque vers la terre de Canaan, qui est promise aux enfants d'Israël, avec la vieille expression rabbinique, c'est une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Et donc ils pourront enfin là s'établir dans un lieu où, communément on dit, coule le lait et le miel. C'est-à-dire c'est un lieu d'abondance, un lieu de paix, un lieu une terre généreuse, où enfin ils seront chez eux.
Et alors, promise par qui ?
Alors c'est Dieu. C'est Dieu qui, au travers de Moïse, promet ce lieu où enfin le peuple d'Israël pourra s'établir, qu'il pourra considérer comme son héritage. C'est entre guillemets le lieu d'où vient Abraham, où il a séjourné avant de partir justement s'installer, enfin avant que ses descendants ne s'installent dans la terre d'Égypte et puis y soient réduits en esclavage, comme nous disions. Donc c'est un lieu où ils reviennent quelque part et donc retrouver la terre de leur père, la terre qui leur a été promise, la terre qui avait été achetée à l'époque, nous dit le texte biblique, par Abraham. Ben c'est retrouver un peu ses racines, son origine, et c'est prendre le temps de se reconstruire après cette déstructuration mentale et cet esclavage qui écrase, qui détruit, qui humilie l'être humain.
Et alors, au fil des années, des époques, cette terre promise, elle a pris différents aspects, peut-être selon les populations. Selon les personnes.
Elle est récurrente, alors elle est aujourd'hui dans le langage, mais tout particulièrement, nous parlons tout à l'heure du thème récurrent dans les Negro Spirituals, qui sont composés par donc les esclaves dans les États du Sud des États-Unis, par les esclaves donc africains, et qui, au travers justement de toute cette image de la sortie d'Égypte, d'un peuple d'esclaves, puisque eux-mêmes réduits en esclavage, mais qui cheminent vers une forme de liberté, qui est là peut-être plus légale ou morale, eh bien, chantent leur espoir, et cela va nourrir dans la profondeur ce cheminement au travers de la souffrance, mais vers une solution, vers l'espérance, vers la lumière.
Alors cette expression, finalement, elle part de la Bible, elle traverse les millénaires comme ça pour transporter une espérance.
Exactement.
À une humanité tout entière.
Je pense qu'elle fait écho aujourd'hui à tout un chacun. Elle nous encourage à continuer à croire, à ne pas perdre ses rêves, à ne pas perdre ses idéaux, à se nourrir d'espérance, à avoir aussi la ténacité de traverser certains déserts. Parce qu'avant d'arriver dans la terre promise, eh bien le récit nous parle de bien des mésaventures dans les déserts à traverser avec tous les différents obstacles que le peuple a traversé, mais c'est aussi un chemin qui va forger une unité, une histoire, et qui va permettre au peuple de s'installer et de se reconstruire, en tout cas de s'établir, et puis de se réconcilier entre eux et avec Dieu, et de construire un avenir en même temps, pour eux et pour les autres, pour tous les esclaves qui seront les bienvenus et accueillis.
Donc cette expression de terre promise colporte vraiment une dimension d'espérance.
Tout à fait. C'est un vaccin contre la défaite, le repli, les théories les plus noires, mais qui donne l'envie de cheminer et de croire dans ces capacités de l'être humain et dans un mieux à construire ensemble et à recevoir de l'aide divine.
Est-ce qu'il pourrait y avoir une terre promise ultime, Daniel Monachini ?
Mais dans la mesure où ce que chantaient les esclaves des États du Sud des États-Unis, je pense qu'on peut imaginer une forme de fraternité ultime ou de dimension d'humanité qui dépasserait toutes les limites, toutes les couleurs, toutes les appartenances, mais qui construirait une fraternité, ce qui parle quand même bien à l'esprit français, parce que la France, c'est pas qu'un pays, c'est avant tout une idée, et donc qui construirait aussi, au travers de l'héritage de la Révolution française, une nouvelle forme de fraternité.
Et le paradis pourrait pas être une terre promise aussi ?
Personnellement, je l'espère. Après, notre action et notre devoir peut-être de croyance et de construire ce paradis ici et maintenant pour tous les exclus et pour tous ceux qui sont oubliés. Mais bien évidemment, c'est ce paradis quelque part céleste qui nourrit notre quotidien et notre espérance.
Merci beaucoup Daniel Monachini. On se retrouve bientôt pour de nouvelles expressions, toutes plus intéressantes les unes que les autres.
Avec plaisir.
À bientôt, au revoir.
Au revoir.
C'était Œil pour œil, expression de la langue française tirée de la Bible, présentée par Oscar Miani et le pasteur Daniel Monachini.
Vous vous sentez isolé, désorienté, perdu, en recherche ? L'IEBC, l'Institut de la Bible par correspondance, vous accompagne et vous propose des cours gratuits à suivre chez vous et à votre rythme. Retrouvez-nous vite sur www.iebc.org et vous verrez, votre vie va changer. Parce que croire, c'est la vie.
Notre émission est maintenant terminée. C'était la Radio Mondiale Adventiste, la voix de l'espérance. Je vous donne rendez-vous dès demain, alors à 4h30 pour ceux qui se lèvent tôt, ensuite à 8h et à 20h. Je vous souhaite une très bonne continuation à tous. Que Dieu vous bénisse. À demain.